Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours dès 15h, il est à l'heure, il est prêt à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, dans notre grand dossier du jour, on vous fait aujourd'hui une promesse ambitieuse, vous aider à vivre votre vie, mais en mieux. Un grand projet que nous propose cet après-midi notre invitée, la psychologue Jeanne Siofachin. Elle l'a construit autour des grands axes qui nous font grandir, vivre et devenir. Alors ça vous paraît peut-être un peu flou comme ça, nous aussi, mais ça sera très concret, c'est promis. Elle va nous aider à identifier nos propres repères et à prendre confiance en nous. Et surtout, et on en a bien besoin après un an de crise sanitaire, elle va nous aider à nous engager avec joie dans la vie. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed reviendra sur la crise de foie. Alors existe-t-elle vraiment à la veille de l'ouverture des terrasses et des bonnes bouffes qui vont avec? Je suis sûre que ces conseils vous seront utiles. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de certaines difficultés techniques rencontrées parfois lors des rapports sexuels à cause de blocages purement psychologiques.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Ludivine, on l'écoute.
Bonjour Mélanie et Jimmy. Depuis le début du confinement, j'ai commencé à faire pas mal de balades. Et puis, j'ai remarqué que quand je marche sur de longues distances, la jambe droite, elle se fatigue beaucoup plus vite que la gauche. Est-ce que je devrais consulter ?
Alors, pour vous répondre précisément sur cette question, nous nous sommes tournés vers le docteur Blandine Bemelenard. Elle est chirurgienne orthopédiste à l'Institut du pied et de la cheville à Paris.
Il faut savoir dans un premier temps si cette jambe a été déjà victime d'un claquage ou d'une déchirure musculaire, ce qui pourrait expliquer qu'elle fatigue plus vite. Dans ce cas-là, il faut voir non pas son médecin, mais un kinésithérapeute pour renforcer la musculature de la jambe. Si ce n'est pas le cas, en effet, à ce moment-là, il faut consulter son médecin généraliste parce que cette fatigabilité musculaire peut être liée à un déficit de conduction des nerfs qui innervent la jambe. Et donc, il faut voir son médecin généraliste, voir ensuite éventuellement un rhumatologue qui peut prescrire, après un examen clinique approfondi, des examens tels qu'un électromyogramme ou une IRM du rachis lombaire pour rechercher la cause ou la localisation de cet éventuel problème de conduction nerveuse.
Voilà, c'était les explications du docteur Demelenard au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va prendre une autre question, celle-ci elle est pour vous, c'est la question de Romuald.
Bonjour, je suis Romuald, je suis à Nice, j'ai une écharpe dans le doigt et j'arrive pas à l'enlever. On m'a dit que si je l'enlevais pas, ça pouvait être dangereux, que ça pouvait même remonter jusqu'au cœur. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que je dois consulter ou pas?
Alors Jimmy, on va répondre dans le détail sur ce point précis.
Oui, nous allons prendre notre temps pour éclairer les auditeurs d'Europe 1.
Voilà, notre temps, exactement. Une écharpe qu'on n'enlèverait pas, et alors il demande, je ne sais pas où est-ce qu'il a entendu ça, mais si elle ne risque pas de remonter jusqu'au cœur, je ne sais pas si c'est une idée de, je sais pas, de une légende urbaine ou je ne sais quoi, mais ça ne peut pas remonter au cœur, on est d'accord, une écharpe.
Mélanie, vous voulez la version courte ou la version longue?
Non, version longue, allez-y, longue,
parce qu'on
a
du temps, et donc on a du temps pour parler des échardes. Alors, ce n'est pas totalement idiot ce qu'il a pu dire. Alors évidemment qu'une écharpe ne va pas remonter ni dans votre cerveau, ni dans votre cœur. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que lorsque vous avez une infection, en particulier dentaire, il est possible que l'infection remonte jusqu'au cœur et donne ce qu'on appelle une endocardite. Et ça va être favorisé par des valves qui sont malades et un mauvais état bucco-dentaire et qui peut vous tuer, puisqu'on sait qu'il y a 20% de mortalité hospitalière de ces endocardites. Donc, c'est des infections qui sont extrêmement graves et qui partent des dents. En revanche, lorsque vous avez une écharde ou peu importe, un corps étranger au niveau du doigt ou ailleurs, il n'y a pas de risque que celui-ci migre. Par contre, il est possible d'avoir une infection qui, lorsqu'elle n'est pas traitée ou sur un terrain très particulier comme du diabète, peut entraîner des surinfections et évoluer, si vraiment on abuse, une septicémie qui finira par toucher votre cœur.
D'accord, donc ce n'est pas un lien direct, elle ne file pas comme ça tout d'un coup dans le système sanguin, l'écharde. Alors quand on a une écharde, Jimmy, est-ce qu'il faut absolument s'acharner, se triturer le doigt par exemple pour essayer de l'enlever?
Là encore Mélanie, est-ce que vous voulez la version longue ou la version courte?
Allez-y Jimmy,
on a du temps à tuer, donc on va faire la version longue. Alors tout dépend des circonstances. Tout d'abord, si jamais vous la voyez l'écharde, évidemment, il faut la retirer, ne la laissez pas traîner. Si par contre, vous vous dites au bout de quelques jours, tiens, c'est étonnant, j'ai cette écharde, et elle a l'air d'être un peu enfouie sous la peau, dans ces cas-là, laissez-la tranquille. Et normalement, ce qui doit vous alarmer, c'est la douleur. Si jamais vous avez mal, ça veut dire que l'organisme reconnaît cette écharde comme un corps étranger, va créer de l'inflammation, et on sait que ça peut être propice à de la surinfection. Donc vous retirez l'écharde, si jamais elle est douloureuse.
Et alors justement, si on veut la retirer, comment on s'y prend? Parce que moi, je me souviens de ma maman qui sortait tout l'attirail avec aiguille brûlée, qui triturait, qui me faisait saigner. C'était horriblement mal, d'ailleurs.
Version courte ou version longue, Mélanie?
Non, allez-y, Jimmy.
Version moyenne, le temps commence à filer. Alors, dans un premier temps, je vous ai dit que c'était une plaie. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut désinfecter justement la plaie avant de vouloir triturer. Évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est si jamais vous avez une pince à épiler, plutôt propre, hein. Évidemment, il ne faut pas avoir retiré les poils sous le bras,
nez,
exactement,
ouais.
Ou du pubis. De toute façon, je ne sais pas qui enterrait ses poils du pubis avec une pince à épiler, mais peu importe. Il faut la désinfecter, donc avec un antiseptique ou même de l'alcool ou même du parfum. À ce moment-là, si l'écharde elle est accessible et que vous pouvez la retirer d'un seul coup, retirez-la. En revanche, si elle vous semble un peu enfouie ou que ça survient chez les enfants, ils sont assez difficiles à gérer puisqu'ils vont avoir rapidement mal et ne pas se laisser faire dans ces cas-là. Moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser tomber et d'aller voir votre médecin qui a forcément des instruments un peu plus fiables et même des toutes petites aiguilles pour décoller un tout petit peu la peau et pouvoir retirer l'écharde dans de bonnes circonstances.
Le mettre le doigt, j'en sais rien, dans un bain de quelque chose, parce que quand on a un panari, on nous dit ça, un bain de daquin pour faire maturer. Là, ça ne fait pas sortir l'écharde un petit peu?
Alors,
de ramollir la chair,
c'est
et
que
tout ça,
ça peut aider, effectivement, mais le but du jeu lorsqu'on fait ça, c'est on considère que si l'écharde n'est plus accessible, puisqu'elle est trop enfouie, on ne va pas vous opérer ou ouvrir, puisqu'on va créer plus de douleur qu'autre chose. Dans ces cas-là, on se dit que soit ça va passer, soit ça va casser. Si ça passe, c'est que finalement, il ne va rien se passer. Ça va être absorbé par votre organisme et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura pas de conséquences. À l'inverse, on sait que parfois, il peut y avoir de la surinfection. Et donc, pour éviter cette surinfection, le médecin va vous proposer de faire des bains de daquin ou d'exomédine transcutanée. Je donne plusieurs marques pour ne pas avoir de problème avec l'industrie des laboratoires, car je ne suis pas rémunéré pour ça. Et donc, ça va permettre d'éviter la surinfection. Et donc, bon, le point, vous rigolez, Mélanie.
Mais non, mais 4 minutes sur les écharpes, franchement, on dit...
Mais j'aurais pu tenir 12 de
fort.
Plus.
Écoutez, c'est très bien.
Voilà,
merci
mais bon,
beaucoup,
bref, désinfecter, s'il vous plaît.
On va désinfecter, c'est parfait. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, dans ce rendez-vous, Grandir, vivre, devenir, c'est le titre du livre de notre invitée, la psychologue Jeanne Siofachin. Elle va nous guider aujourd'hui pour vivre la même vie, mais en mieux, rien que ça. Alors on va tout vous expliquer, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour ce dossier du jour. C'est vous, Jeanne Siofachin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue praticienne et vous êtes également la co-autrice du livre Grandir, vivre, devenir, publié aux éditions Odile Jacob. Un livre que vous avez co-écrit avec le psychiatre Jean-Christophe Seznec. Un livre étonnant puisqu'il est constitué d'une correspondance entre vous deux en réalité. Pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre sous cette forme?
Alors, en fait, avec Jean-Christophe, on est tous les deux des professionnels et des personnes, des humains très curieux et très bavards. Et on avait très envie de proposer cette balade dans la psychologie contemporaine autour de ces grands sujets, de grandir, vivre, devenir. Et le confinement est arrivé, ça, jusque-là ce n'est pas franchement un scoop, nous sommes bien d'accord. Et on s'est dit, eh bien tiens, si finalement on adoptait l'écriture, c'est-à-dire... une forme à la fois très ancienne et archi-contemporaine, puisqu'on ne s'écrit plus. Donc, on a pris ce parti de s'écrire. On ne s'est jamais parlé entre deux courriers, enfin deux mails, hein, en réalité, bien évidemment. Et on a cheminé comme ça à rebondir sur les propos de l'un, les propos de l'autre, en passant par ces grandes étapes de cette histoire de la vie, hein, dans le fond, mais en y intriquant aussi nos expériences personnelles, nos ressentis, de la musique, du rock, de la littérature, du clown. Enfin, c'est vraiment, c'est un objet littéraire assez curieux et assez différent surtout.
Alors dans notre vie, on doit toujours s'adapter, et ce, dès la naissance. Et vous dites par exemple que le bébé traverse un long tunnel les 3 premiers mois de sa vie. C'est pas très clair pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire que pendant les 3 premiers mois, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en termes de la façon dont le bébé va intégrer son environnement affectif et la façon dont il va construire son espèce de plateforme interne de lancement, son territoire de sécurité. Et que ce sont des moments très importants parce que c'est là que s'intrique tout ce qu'on appelle en psychologie, mais on l'explique avec des mots accessibles bien évidemment, les processus d'attachement. Et que l'on sait que mieux on est attaché dans la vie, plus on pourra se détacher et vivre sa vie. Et ça, c'est pendant ces premiers mois. Et puis, il y a énormément de structures à la fois cérébrales, mais aussi de structures de déclenchement de toutes ces hormones, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, qui vont nous envelopper et qui vont permettre de s'intriquer pour s'élancer dans la vie en se sentant aligné d'une certaine façon.
Alors Jeanne, vous nous aidez aujourd'hui à vivre notre meilleure vie, on va dire, une vie la même qu'aujourd'hui, mais en mieux. Pour un bébé, par exemple, qui est né là, pendant le confinement, vous dites que les trois premiers mois sont vraiment cruciaux pour tout ce qui est lien affectif, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents qui nous écoutent pour que les petits bébés qui sont nés là récemment, dans des périodes un peu compliquées vu le contexte sanitaire, bah, vivent leur meilleure vie eux aussi?
Ce qui est très important pour le bébé, c'est de se sentir, comme je le disais à l'instant, en sécurité affective. C'est-à-dire de se sentir dans un environnement qui le porte au sens propre et au sens symbolique. Et par exemple, la voix, et on est à la radio, ça tombe bien, la voix semble complètement au centre de cette construction du passage des émotions entre l'adulte et l'enfant. Donc le fait de bercer, le fait de chanter des chansons, le fait de parler à son bébé, le fait même de lui raconter des histoires, même si bien sûr il n'en comprendra pas le sens, mais il en entendra la prosodie. Et donc toute cette petite musique de la vie va s'imprégner fortement chez lui.
Et justement, il y a la communication verbale et non verbale, et on sait que les enfants sont des éponges. Ça veut dire qu'en cette période un peu compliquée, ils peuvent ressentir notre stress, même si on essaie d'être bienveillant et qu'on fait attention. Ben, les bébés sentent quand on va pas bien.
Oui, ils le sentent, mais ils sentent aussi toutes les bulles d'amour qui s'échappent de nous malgré tout, parce que quand on vient d'accoucher, qu'on a un tout petit bébé, même si on est stressé par des facteurs extérieurs, on a plein de petites bulles d'amour qui pétillent tout le temps, et le bébé va s'en emparer de ces bulles et finalement va se lover plutôt dans ces bulles naturellement que dans le stress que pour l'instant lui est un peu étranger,
Dans une lettre dans le bouquin, le docteur Sesnek, qui a coécrit le livre avec vous, donc explique que les enfants, là on parle des enfants un peu plus grands, bah même ça dit les petits aussi, mais adorent vraiment le jeu et qu'il faudrait vraiment les inclure à part entière dans leur éducation. En quoi ça leur est si bénéfique le jeu? On a besoin tous de jouer en ce moment de toute façon.
Oui, mais le jeu c'est fondamental pour construire son psychologiquement, c'est indispensable pour la construction, parce que le jeu, c'est finalement une espèce d'espace intermédiaire, d'espace transitionnel, comme on dit en psychologie, entre le monde de l'intérieur et le monde de l'extérieur. Et par le jeu, on peut exprimer plein de choses qu'on a à l'intérieur de soi, plein de comportements. On peut aussi mimer la peur, on peut mimer la colère, on peut mettre en scène tout ce qui nous agite à l'intérieur. Et tout ça, c'est un peu comme l'humour quand on est plus grand. L'humour, c'est une forme de jeu aussi. C'est une façon de jouer avec nos émotions, avec nos pensées, de jouer avec l'autre. Et dans ce jeu-là, vont se dessiner les contours de notre personnalité.
Alors finalement, les parents vont s'attacher à l'enfant, vont l'aimer pour le laisser ensuite battre de ses propres ailes, en fait. Mais pourquoi c'est parfois difficile de les laisser s'en aller, d'être un peu autonome? Et souvent, ça peut venir soit des parents ou des enfants.
Des deux côtés. Ouais.
Oui, ben parce que justement, c'est ce qu'on disait, c'est la force de l'attachement. C'est-à-dire, plus on se sent tranquille avec ce que l'on est, plus on a bâti et on se promène comme ça avec Jean-Christophe, Jean-Christophe Sesnek, donc le co-auteur, sur les grandes phases de la construction de soi. Plus on a confiance dans qui on est. Confiance, c'est avoir foi étymologiquement, c'est-à-dire c'est de sentir qu'on peut le faire. À ce moment-là, on sent qu'on peut s'échapper. Mais s'échapper, ça veut dire prendre les risques de la vie. Et quelquefois, on préfère rester, comme on le dit souvent, dans sa zone de confort. Et les parents, de temps en temps, nous enferment aussi dans cette zone parce qu'ils n'ont pas envie de nous voir s'échapper. Donc là encore, c'est tout un jeu.
Jeanne Chauffachin, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, on va continuer de s'intéresser à notre psychologie, comment profiter de l'instant présent et surtout, nous vous donnerons des astuces pour essayer de tendre davantage vers le bonheur dans notre quotidien, tout en nous acceptant tels que nous sommes. Et oui, c'est pas facile, il faut le dire. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, elle est toujours en studio avec nous, c'est vous, Jeanne Siofachin. Vous êtes psychologue clinicienne et la co-autrice avec le docteur Sesnek du livre Grandir, vivre, devenir, publié aux éditions Odile Jacob. Jeanne, on va maintenant parler de comment vivre, de négocier l'instant présent plus sereinement. Et vous donnez d'abord dans votre livre des conseils aux ados qui peuvent être particulièrement anxieux, notamment dans la période actuelle qui a été quand même si chamboulée depuis un an, et vous les rassurez, vous leur dites non,
vos choix sont pas définitifs. C'est vrai que quand on passe son bac en ce moment, quand on doit faire des choix pour son orientation, c'est pas évident, mais vous dites non, non, à 16-17 ans, on ne scelle pas toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Je crois que c'est pas uniquement une question de période, hein. Je crois qu'il y a vraiment une espèce d'anxiété qui pèse énormément sur les ados. D'abord, on leur explique qu'il faut qu'ils fassent une crise d'adolescence. Or, la crise n'est pas obligatoire. L'adolescence, c'est un passage, c'est une dynamique, c'est un mouvement, effectivement, où beaucoup de choses bougent, en particulier avec la puberté, et où on a des envies, des projets, des façons de se représenter le monde qui changent par rapport à la petite enfance. Et bien sûr qu'on peut se projeter, parce que de toute façon, on nous le demande par rapport au système de nous projeter dans l'avenir, mais je crois vraiment, et ça on en parle beaucoup effectivement dans ce bouquin, qu'il faut lâcher cette espèce de pression qui... Elle est légitime. C'est normal que les parents aient peur. C'est normal qu'existe cette... Enfin, c'est normal. En tout cas, c'est légitime.
Que l'enfant réussisse le mieux, voilà, et la vie la plus confortable possible plus tard.
C'est la première chose que disent les parents. La seule chose que je souhaite, c'est que mon enfant soit heureux. Heureusement que les parents pensent ça. Mais il faut bien avoir en tête qu'aucun choix n'est définitif, que tout bouge tout le temps, que la vie est en permanence et qu'on peut décider de chemin à 16 ans et bouger son chemin à 18, à 21, à 35, à 48, même plus tard. Et que c'est ça qui est intéressant dans la vie. C'est-à-dire que c'est cette façon de surfer sur les vagues et de ne pas toujours vouloir tout maîtriser et tout contrôler. Parce que c'est impossible et que c'est un leurre de notre cerveau. C'est une illusion dangereuse.
Et justement, pour ne pas se perdre, vous conseillez même aux adultes, pour le coup, de suivre leurs valeurs. Vous nous parlez de la boussole de la vie. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Il me semble que même à l'adolescence, c'est très important de se repérer. En fait, la boussole, c'est un point de repère. Comme la boussole dont se sert...
Moi, j'ai jamais su m'en servir, mais...
vous êtes éliminée direct. Hein, l'orientation, ça arrive normalement la semaine prochaine. Non, dans deux semaines.
Mais alors, peut-être qu'avec la boussole des valeurs, ça peut marcher, la boussole des valeurs, c'est très important parce que c'est important de repérer, dans le fond, quelles sont les valeurs qui nous habitent. Alors, je ne parle pas du tout de valeurs morales, mais c'est ces espèces de piliers autour duquel se construit notre identité et qui vont nous guider. Par exemple, si on a une valeur forte qui est la famille, eh bien, si on est embarqué dans une famille, on a plus de probabilité de se sentir aligné. Si notre valeur forte, c'est sauver le monde,
C'est une grosse valeur, là, pour le coup.
Oui, mais il y a des gens qui ont vraiment ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin de générosité, de se donner pour les autres, et ça va être important qu'ils puissent s'engager dans quelque chose qui corresponde à ce besoin-là. Il y a des valeurs comme ça, il y a des tas de possibilité de déterminer ses propres valeurs. Il y a des tas de questionnaires, on en met d'ailleurs dans le livre, parce que ce livre, il a aussi pour vocation de donner vraiment des trucs et des clés pour avancer dans sa propre vie. Voilà. Et avec sa valeur, finalement, ça nous donne le sens. Hein, c'est la valeur qui donne le sens au sens presque concret. Hein, c'est pas un sens existentiel, c'est un sens concret de vers quoi diriger nos vies.
Vous parlez pas mal dans le bouquin de notre enfant intérieur. Vous dites qu'il faut assumer nos vulnérabilités. C'est d'ailleurs même comme ça qu'on devient soi-même. Expliquez-nous ce que ça veut dire, cet enfant intérieur.
Mais cet enfant intérieur, c'est finalement la part de notre profonde humanité. On a quelquefois peur de sa vulnérabilité parce qu'on peut penser à tort que la vulnérabilité est une faiblesse, une fragilité et qu'il faut surtout la camoufler. Et certains d'entre nous mettent énormément d'énergie à mettre des masques, à se construire dans ce qu'on appelle en psychologie en faux self, c'est-à-dire une identité d'emprunt, pour surtout ne pas se montrer tels qu'ils sont et se présenter à l'autre et aux autres sous une forme qu'ils considèrent être la bonne. C'est un peu comme quand on se parfume. En fait, on choisit un parfum pour transmettre une forme d'identité. Ben souvent, dans la vie, on fait ça. Et cet enfant intérieur, il nous rappelle que dans le fond... On est beaucoup plus tendre, beaucoup plus humain, et que à partir du moment où on se connecte à sa vulnérabilité et donc à sa force intérieure, on a beaucoup plus de possibilités d'être touché au sens propre par l'autre et d'être touché et de toucher les autres.
Alors pour être heureux, vous utilisez aussi l'exemple de Mary Poppins, changer sa façon de voir les choses. C'est assez drôle comme métaphore, mais pourquoi ce film ?
Vous l'avez vu, j'espère, Jimmy, parce que moi, je l'adorais. Hein.
Mais parce que Mary Poppins, c'est ma vraie star.
Ah ouais, tellement.
Merci de m'interroger là-dessus. Mary Poppins, on peut le voir de mille façons,
justement.
Vous
avez un petit quelque chose de Mary Poppins, d'ailleurs, moi, je trouve.
C'est vrai. Et moi, de John Rambo.
Oui, non, rien du tout. Non.
Ah bah, dommage, Jimmy, c'est loupé.
De Claude Rambo, c'est pas John Rambo.
Mais moi, j'adore Mary Poppins, c'est bourré de métaphores. En fait, Mary Poppins, on peut le voir comme cette nurse un peu magique qui va illuminer la vie de ses enfants qu'elle vient gardée dans cette horrible famille. Mais en réalité, la mission de Mary Poppins, c'est de faire bouger le regard des enfants sur leurs parents, de faire bouger le regard des parents sur leurs enfants, de faire bouger le regard des enfants sur les possibilités du monde. Donc finalement, le message de fond de Mary Poppins, c'est on ne peut pas quelquefois changer le monde, mais on peut changer son regard sur le monde, et c'est ça qui change tout. Et la métaphore, par exemple, quand elle arrive avec son improbable sac en tapisserie qui semble totalement vide et que sous les yeux éberlués des enfants, elle en sort des lampadaires, des plantes vertes invraisemblables, des miroirs en bois doré, eh bien c'est une métaphore formidable de même quand on croit qu'on n'a plus de ressources, on en a toujours au fond de soi.
J'adore, on termine sur ça. Enfin, on n'a pas terminé avec vous, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes, ne bougez pas. On revient très vite avec cette émission dans laquelle on part vraiment en quête du bonheur. Aujourd'hui, on va parler un peu d'amour notamment et vous donner même quelques tips, comme disent les jeunes, pour que nos couples, le couple dure. On y revient très vite. Restez avec nous sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Jeanne Siofachin. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Et avec vous, cet après-midi, on tend vers la même vie, mais la même vie en mieux. Alors, pour vivre cette même vie en mieux, ça doit, j'imagine, forcément passer par quelques adaptations, quelques changements parfois. Et vous nous conseillez pour cela de tenter de sortir régulièrement. Enfin, je ne sais pas s'il faut faire ça, se forcer souvent, mais de notre zone de confort. Qu'est-ce que ça signifie concrètement au quotidien ? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner, par exemple ?
Ben, ça veut dire qu'en fait, on a tendance à reproduire beaucoup la même chose et curieusement même les choses qui peuvent nous faire souffrir. Vous évoquiez juste avant dans le paragraphe précédent le couple par exemple. On peut avoir tendance à rester avec quelqu'un parce que dans le fond on est habitué, parce que finalement on a des enfants ensemble, parce que on partage une maison, un appartement.
Ne faites pas divorcer tous nos auditeurs.
Non, parce que justement c'est pas une question de divorcer. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est une question, une fois encore, un peu comme avec Mary Poppins, de faire un pas de côté et d'essayer de s'interroger. Je reviens là-dessus sur notre boussole, sur nos valeurs et sur qu'est-ce qui nous fait du bien dans cette relation de couple et qu'est-ce qui pourrait être modifié, changé, amélioré, plutôt que finalement de ne pas être forcément profondément satisfait, mais de faire encore la même chose parce qu'on est habitué et que notre cerveau, nous sommes des gens intelligents, mais notre cerveau, il est basique, il est binaire. Il fonctionne entre ce qui me fait plaisir, ce qui me fait souffrir. Donc, il tend en permanence à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire à l'équilibre, surtout ne rien bouger. Donc, il faut avoir un peu
sortir de sa zone de confort.
Ouais, un peu se dire, allez, 1, 2, 3, hop, comme quand on se jette dans l'eau quand on est petit et qu'on a si peur parce qu'on se demande si on ne va pas se noyer et que finalement, on se rend compte tous qu'on flotte.
Alors, c'est un peu déprimant, mais selon vous, l'amour dure vraiment 3 ans?
Alors, moi, je pensais que c'était juste le titre d'un livre, mais apparemment, non, elle confirme.
Comment on l'explique?
Moi, ça fait 17 ans, je croyais, pourtant.
Mais qu'est-ce qui se passe après ces 3 ans-là? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, là?
Eh bien, alors, aujourd'hui même, je fête mes 30 ans de mariage.
Ah, ouf, ça nous rassure, ça va. Mais seulement 3 ans d'amour.
Voilà. Bon, non,
et 27 ans de galère.
Non, mais c'est vachement... mais vraiment, mais vous êtes insupportables, tous les deux.
Bon, alors, expliquez-nous.
C'est génial, au contraire, ces 3 ans. Parce que quand on le sait, on peut... Là encore, modifier les choses. 3 ans, c'est pendant 3 ans, on est bourré de cette hormone incroyable qu'est l'ocytocine, qui fait qu'on voit le prince charmant ou la princesse merveilleuse dans la moindre des rencontres.
Et après, on voit les caleçons
sales. Et pourquoi pendant 3 ans? Exactement. Et donc, pourquoi 3 ans?
Je pense, en plus, si je réfléchis bien, que c'est au bout de 3 ans que j'ai commencé à me rendre compte.
Non, mais Mélanie, pourquoi 3 ans? Parce qu'en fait, au niveau de l'évolution de l'homme, on considère, et on sait tous que c'est pas vrai, que pendant 3 ans, on peut faire un bébé et qu'au bout de 3 ans, bien sûr, il va être autonome. Mmh. Hein, donc, on peut aller refaire un couple et refaire un bébé avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. En fait, et au bout de la 3e année, l'ocytocine, qui est cette espèce d'emballement émotionnel, va diminuer. Et le matin, effectivement, on va se dire, quoi? Mais c'est qui ce mec? Et c'est qui cette nana?
Mais j'y suis attachée.
Sauf si, justement, pendant ces 3 ans, on a développé de la tendresse, du lien, de l'affection, on a construit des projets ensemble. Mais il faut le savoir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont accros à l'ocytocine, les gens qui font des ruptures de couple très fréquemment.
Tous les
3 ans.
Il
faut qu'ils comprennent qu'ils sont sous l'emprise de leurs hormones. Mais c'est intéressant de savoir ça.
Vrai.
Mais du coup, je comprends mieux, parce qu'en fait, au début, ma femme, elle trouvait mes pieds mignons. Mais t'as des beaux pieds.
Au bout de 3 ans, elle a ouvert les yeux.
Elle me dit, mais comment ai-je pu croire que tes pieds... Mais elle me dit, ils sont affreux, tes pieds. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'étais aveuglée par l'amour.
Mais oui, mais c'est ça. On voit la vie en rose. C'est-à-dire que pendant 3 ans avec l'ocytocine, mais alors, ce qui est génial, c'est que l'ocytocine, on peut aussi la sécréter par la tendresse, par les câlins, par les baisers, par le fait de se prendre dans les bras et par les bains chauds. hein, et par un regard d'amour inconditionnel, quel qu'il soit, on se booste en ocytocine.
Alors, on va terminer par une notion que vous abordez également dans le livre, la vieillesse. On a tous quand même plus ou moins peur de vieillir, mais il y a une bonne nouvelle dans votre bouquin, c'est que vous nous expliquez que finalement, l'âge auquel on est le plus productif, c'est après 50 ans.
Oui, et même l'âge auquel on est le plus heureux, c'est après 60. Donc,
génial,
c'est formidable. Et donc, l'acmé de la productivité, c'est 53 ans. Donc, c'est important parce qu'on est tellement assaillis par cette image, et en particulier les nanas quand même. Il faut bien avouer qu'il faut coûte que coûte à rester avec une tête de jeune. Quand on a 60 ans, c'est un peu galère quand même. Mais si à l'intérieur de soi, on continue à développer des projets, on continue à développer cette dopamine qui nous booste et qui nous permet de nous sentir complètement dans le flot de la vie.
Merci beaucoup Jeanne-Sio Fachin d'avoir été avec nous aujourd'hui et pour en savoir plus sur cette vie mais en mieux, je rappelle votre livre coécrit avec le docteur Seznec, Grandir, vivre, devenir, publié chez Odile Jacob. Merci encore Jeanne.
Merci beaucoup.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, Jimmy va revenir sur ce qu'est vraiment la crise de foi. Est-ce qu'elle existe vraiment d'ailleurs? Il va tout nous expliquer. Restez bien avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé, bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien, avec un éclairage sur la crise de foie aujourd'hui. En avez-vous déjà eu une? Mais d'ailleurs, c'est quoi la crise de foie? Est-ce que c'est vraiment le foie qui souffre? On va faire le point avec Jimmy, mais avant ça, notre journaliste Valentin Pieuvezan a été vous interroger sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
La crise de foie, c'est le foie, oui. C'est le foie qui fonctionne mal, qui est saturé.
La crise de foie, j'ai l'impression que c'est un terme qui est galvaudé, parce qu'en fait... C'est plutôt l'estomac, non?
Par exemple, quand on abuse de certains aliments, il me semble.
C'est quand, par exemple, on mange trop de chocolat ou alors... Enfin, c'est souvent ça, hein, c'est plutôt le chocolat.
On a mal au ventre, on a mal au foie, on a fait une grosse soirée, on a mal mangé gras.
C'est quand on mange trop ou... Enfin, je sais pas, qu'on tolère mal quelque chose puis qu'on est malade, quoi.
J'imagine que c'est des douleurs, hein, donc forcément assez aiguës au niveau du foie et peut-être des vomissements.
On a l'impression d'avoir une brique dans l'estomac. Ce qu'il faut faire, c'est boire de l'eau, se coucher, se reposer, attendre que ça passe et je sais pas, peut-être manger un peu plus léger la prochaine fois.
Alors Jimmy, ça vous connaît tous ces sujets-là de problèmes de transit, de mal au ventre, de trop manger, hein, évidemment. Donc on va parler de la crise de foie. Est-ce que ça existe vraiment, la crise de foie? Ça serait, c'est quoi, un foie qui souffre?
Mais non, la crise de foie n'existe pas. C'est une pathologie française, car contrairement à vous, Mélanie, le foie ne se plaint jamais.
Ah,
même lorsque ça ne va pas, le foie ne va jamais vous donner de symptômes. Et même à un stade très avancé, si on prend l'exemple des cirrhoses, eh bien, vous n'allez quasiment pas avoir de symptômes et donc ne pas vous rendre compte que votre foie ne marche pas. C'est donc une idée reçue.
Donc un foie malade, c'est pas forcément un foie qui fait mal. Alors qu'est-ce que c'est quand on se sent si mal après une orgie de chocolat, de nourriture grasse et sucrée? Si c'est pas une crise de foie, c'est quoi?
Bah, je l'ai expérimenté avec des kebabs que j'ai enchaînés dernièrement. Alors tout simplement, c'est lié au fait que la digestion a du mal à se faire. Il faut pas l'oublier, lorsque vous mangez, ça va dans l'estomac et puis il faut que ça passe dans l'intestin,
chemin.
Le côlon, avant de sortir pour aller aux toilettes. Sauf que ça nécessite beaucoup de débit sanguin et beaucoup d'afflux justement de sang pour avoir une bonne digestion. Et vous avez besoin aussi d'acide biliaire. La bile, je vous rappelle, elle n'est pas synthétisée par la vésicule biliaire. Elle est synthétisée par le foie. Et donc, lorsque vous avez mangé au-delà de ce qui est raisonnable, un, il ne faut pas oublier que l'estomac est une poche qui reste extensible, mais dans ses limites. Donc déjà, il y a le volume lié à l'alimentation qui va rendre la digestion difficile. Et puis, toute l'énergie qui va être nécessaire pour la digestion, d'où le petit coup de barre post-prandial qu'on peut avoir. Et donc, quand vous mangez trop, c'est trop d'efforts et donc forcément un inconfort.
Certains, le lendemain d'une soirée où on a trop mangé, trop bu, confondent peut-être aussi crise de foie et gueule de bois. C'est quoi physiologiquement la gueule de bois?
Alors c'est vrai que j'aime pas trop ce terme, gueule de bois. Moi, je vois plutôt une intoxication alcoolique. C'est les conséquences d'avoir trop bu. Et d'ailleurs, ça va survenir entre 6 et 10 heures après avoir bu, au moment où votre alcoolémie est proche de zéro. Preuve qu'il se passe quelque chose dans votre organisme. Alors on ne connaît pas bien encore tous les mécanismes, mais on sait qu'il y a une part de déshydratation, d'inflammation, de glycémie qui ne serait pas régulée tout à fait. Et donc à ce moment-là, eh bien, on a cette gueule de bois avec ses nausées, parfois ses mouvements.
C'est quand même un organisme qui souffre pas mal.
Oui,
hein,
c'est quasiment une intoxication, en fait, un empoisonnement. C'est une réaction du corps à quelque chose d'étranger.
Alors pour éviter la fausse crise de foie due à l'excès de gras, de sucre, de tout ce qu'on veut, lors des repas un peu festifs à venir sur les terrasses, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour quelques petites règles peut-être de bon sens?
Pas de règles.
Pas
profitez,
de règles,
non,
allez-y,
franchement,
allez manger.
Perd la
ça.
Morale, docteur Mohamed, il y en a marre. Donc non, faites-vous plaisir.
Et même entrée, plat, dessert, c'est très bien.
Entrée,
les restaurateurs
dessert.
Vont vous adorer.
Mais oui, buvez, faites-vous plaisir. Alors évidemment, attention à l'alcool.
l'alcool avec modération, voilà. Toujours, évidemment.
Mais c'est un moment festif, c'est un moment de partage, ça fait du bien, c'est du lien social, on est content de voir les restaurateurs, donc voilà, pas de règles. Manger
en
à volonté.
En triple dessert, d'ailleurs, ça peut même faire maigrir, c'est étonnant
et
ça.
Et oui, parce que lorsque vous êtes en restriction, votre organisme se dit, il me manque des nutriments, il me manque ce qu'il faut pour synthétiser les bonnes protéines, et donc, vous allez stocker beaucoup plus.
En
donc,
mangeant moins.
Exactement, donc en mangeant plus, bah, vous n'allez pas forcément grossir, il faut faire évidemment attention à ce que vous mangez, et prendre le temps de mâcher, de discuter et de recommander, parce qu'il faut aussi faire travailler les restaurateurs. Donc voilà, pas de règles, profitez. Et puis on en rediscute après-demain s'il y a des petits bobos.
On a compris. Entrée, plat, dessert, demain sur les terrasses, c'est l'ordonnance du docteur Jimmy Mohamed. Merci Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, de retour bien sûr avec la chronique sexo de Catherine Blanc, la sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va écouter la question de Marc. Il a 25 ans.
Bonjour, voilà, j'ai une question. Ces derniers temps, mon copain a très envie de faire l'amour, mais le problème, c'est que pendant la pénétration, il perd son érection. Alors, je ne vous cache pas que bah, moi, ça me met mal à l'aise. J'aimerais vraiment avoir une réponse à ça.
Alors, Catherine, c'est effectivement assez embêtant, on va dire, au moins d'un point de vue technique, ce genre de situation. Ça arrive souvent, ce genre de choses, bah de débander comme ça pendant, alors que la pénétration est déjà en cours ?
Bien sûr, et ça ne concerne pas qu'un couple homosexuel, hein, c'est aussi vrai dans un cadre hétérosexuel, parce que l'envie est une chose, l'envie dans la tête, l'envie même la compétence dans le corps, et puis il y a tout ce qui s'en mêle, c'est-à-dire la culpabilité, les histoires tout à fait inconscientes d'ailleurs, parce qu'il est très actif et très en désir, mais tout d'un coup, il y a d'autres choses que cela raconte, des peurs, des culpabilités, qui peuvent tout d'un coup venir mettre, ou des protections de l'autre, comme si la pénétration était vécue comme une agression de l'autre, même si techniquement on sait bien que non et que c'est attendu et demandé par son partenaire ou sa partenaire. Le fait est que notre inconscient nous joue des tours parce que notre histoire de construction psychique, elle est passée par des tas d'événements, des tas de lectures ou des surlectures à des contextes particuliers qui font du coup des empêchements ou des interdits et donc des protections mises en œuvre.
Mais du coup, là il le dit, c'est dès le début de la pénétration. Si c'était au bout d'une demi-heure, ça serait compréhensible et même pas honorable.
Comment ça, une demi-heure ? Vous savez que toutes les pénétrations ne durent pas une demi-heure.
Mais Jimmy, c'est d'entretenir un mythe.
S'il vous plaît,
là.
Ne mettez pas à mal la sexualité de tout un chacun.
Au bout de 45 minutes, excusez-moi.
Non plus, Jimmy, c'est pas pour moi.
Vous dire ça.
Mais du coup, ça veut dire qu'il se passe quelque chose.
Au bout de 10 minutes, Jimmy, soyons honnêtes. Allez, au bout de 10 minutes, Catherine.
Ça empêche la pénétration. Pour nombre d'hommes, leur perte d'érection peut empêcher complètement la pénétration par peur pour eux, par peur pour l'autre. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une vie sexuelle autre que pénétrante, mais évidemment, elle est limitée par cette problématique qui est d'ordre psychologique essentiellement.
Mais pourquoi c'est vraiment au moment de cette pénétration que cette érection...
Bah parce que c'est là qu'est l'enjeu.
Parce qu'apparemment, il semble... Ah oui, c'est l'enjeu là en même temps. Tout le rapport sexuel, pour moi, est un enjeu, non ? Enfin, je ne sais pas.
Oui, mais ça, c'est un enjeu particulier. Alors, ouais. Ça peut être, puisque là, il s'agit d'un couple homosexuel, peut-être aussi, c'est sa compétence à pénétrer le corps de l'autre, avec tout ce que ça lui renvoie.
Oui, on n'a pas les détails de son histoire.
Peut-être de féminin, d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette orientation sexuelle et la crainte de la pénétration. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait un homme peut-il avoir de sa sexualité, de sa pénétration et de ce que cela implique ou pour lui ou pour l'autre. Et ça, c'est vraiment d'ordre psychologique complètement inconscient. Et malgré son amour, malgré son désir, malgré l'excitabilité qui est la sienne et celle de l'autre. Et c'est pour ça qu'évidemment, le partenaire ne doit pas le vivre comme étant un jugement de ne pas être assez désirable, puisqu'il ne s'agit pas de l'autre, mais bien de ce qui se produit dans la tête de celui qui veut pénétrer et qui fait une lecture, une surlecture de la réalité en fonction de son histoire personnelle.
Et puis, il y a un cercle vicieux qui peut s'installer. On n'y arrive pas une fois. Et du coup, la fois d'après, on se dit, oh là là, si ça ne marche pas, bah forcément,
blocage,
ça ne va pas blocage.
Chronique, ouais.
Et donc, c'est un cercle vicieux. Tantôt
absolument.
Que la personne en face de vous ne réagisse pas très bien parce qu'elle ne sait pas comment réagir, elle se braque. Bah du coup, en fait, une panne peut se transformer en une succession d'échecs.
Absolument, parce qu'on rajoute du coup l'angoisse de performance que vos demi-heures et trois quarts d'heure risquent d'amplifier, Jimmy.
Bravo, Jimmy,
enfin.
Bravo.
Voilà, donc l'angoisse de performance qui, évidemment, va chaque fois se nourrir de l'échec précédent. Alors, j'aurais tendance à dire, pensant comme les Américains, échoue souvent, comme ça tu apprends effectivement le chemin de la victoire et tu te réjouis de la victoire quand elle viendra, évidemment. Mais le fait est que dans le domaine de la sexualité, nous avons du mal à le voir sous cet angle-là.
Mais là, Marc donc, parle de son mec. Est-ce qu'il n'y a peut-être d'ailleurs pas derrière finalement une homosexualité qui ne serait pas tout à fait assumée aussi et qui du coup engendre des difficultés sur le plan technique, quoi.
Oui, vous avez raison. Mais encore une fois, c'est de toute façon une sexualité pas assumée. Ça aurait été dans le cadre d'un groupe hétérosexuel, ouais. C'est une sexualité pas assumée. C'est-à-dire la lecture que j'ai de ma posture sexuelle, tout d'un coup, se fait, c'est comme si je me tapais sur les doigts, sur la verge en l'occurrence, pour la faire débander, pour qu'elle ne soit pas toute fièrement... Ça peut être aussi une peur ouais. d'être absorbée, mangée, découpée par le corps pénétré. C'est pour ça que je dis que c'est une peur pour soi. L'enjeu est soit pour soi, ouais. soit pour l'autre. Peur du mal que l'autre pourrait me faire ou peur du mal que je pourrais faire à l'autre qui
bon,
fait que tout
coup... Mieux qu'il consulte quand même pour ce type de problème, non je
Bien
pense.
Sûr. Ouais. Et puis, de voir très tranquillement, alors bien sûr, et aussi tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété, puisque ce doit ouais. être aussi une personne qui, sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, est également plutôt anxieuse quant à ses performances. Donc Merci. Ça servirait tous les sujets.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bien sûr demain à 15h.
C'était Sans Rendez-vous avec Agipi. Pour vous protéger des aléas de la vie, découvrez l'assurance prévoyance Cap Agipi auprès d'un agent AXA et sur agipi.com.
Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire tous les jours sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Vous avez remarqué, elle a une veste noire aujourd'hui.
Mais évidemment, mais elle oui. connaissait le thème de notre émission.
Oui, oui. Ah, aujourd'hui, il voit tout en noir. Barbara,
bah oui, qui, évidemment.
Elle broyait du noir. Pierre Soulages qui lui peignait du noir et vous avez choisi
une
Mathieu.
Famille qui voyait tout en tout noir, la famille Adams.
Ah oh, super, bah jeunesse, oui Mélanie. Complètement, bon écoutez je suis ravie, on va rester bien sûr à l'écoute d'Europe 1 et vous aussi faites la même chose, restez avec nous.